Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Et on se retrouve débat. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, couvre-feu, mesures restrictives, une catastrophe économique, la règle des 6, les fêtes interdites. Les Français vont-ils respecter ces nouvelles mesures? On vous attend au 0826 300 300, et puis on parlera de cette perquisition dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous pour le 10h midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Najwa El Haïté. Bonjour Najwa.
Bonjour,
vous êtes docteur en droit public, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions de l'Harmattan et je montre la une du Figaro Magazine pour ceux qui nous regardent via Facebook. Vous êtes aux côtés de quatre femmes. Vous êtes aux côtés de Fatia Agag Boudjalat, Sonia Mabrouk, Zineb El Razaoui, Dana Manoukcheri, je ne sais pas, je la connaissais pas, Echeri, pardon, ces femmes qui se mobilisent contre l'islamisme, les combattantes, très belle une du Figaro Magazine. Fergan Aziari, bonjour, vous êtes avec nous ce matin, essayiste, délégué général de l'École de la Liberté, chargé d'études à l'Institut de Recherche Économique et Fiscale. Gaspard Ganzer, bonjour.
Bonjour.
Consultant en communication. Et Régis de Castelnau, bonjour Régis.
Bonjour.
Et avocat, votre blog c'est Vue du Droit. Et vous êtes également membre de la rédaction de Front Populaire. Vous êtes là? Oui, oui, on vous voit.
Je suis là, oui,
on
j'ai
vous
dit
voit,
bonjour.
On vous entend, d'accord. Non, j'ai pas entendu. Perquisition en série, donc, dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Couvre-feu et mesures restrictives, catastrophe économique, mais peut-on faire autrement? Et puis, couvre-feu, règle des 6, fêtes interdites, mariage interdit. Les Français vont-ils respecter ces nouvelles lois? On en parle avec vous. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans l'actualité aux uns et aux autres. Gaspard, Gaspard Ganzer, c'est un coup de cœur d'actualité.
Oui, c'est un coup de cœur d'actualité, plein d'espoir autant que d'analyse. C'est que on approche. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure du livre de Roy Cohn sur un ancien avocat de Donald Trump. Et moi, je me suis intéressé à Joe Biden parce que je pense que Joe Biden peut devenir le prochain président des États-Unis. Ça nous semble improbable à nous Français parce qu'on a été tellement submergé par la vague Trump, on a l'impression qu'il est devenu invincible. Et bah pourtant, quand on regarde dans le détail ce qui se passe état par état, parce que c'est une élection état par état et au niveau global, en fait, normalement, Biden doit littéralement vitrifier Trump lors des élections qui auront lieu dans moins de 3 semaines.
On en est aussi sûr que ça.
Si la rationalité est encore un tout petit peu de ce monde, vu que Trump a entre 10 et 15 points de retard au niveau national et que dans tous les swing states, y compris peut-être même dans le Texas, Biden va battre Trump. Normalement, Trump, mathématiquement, ne peut plus gagner au stade de l'élection. Mais il nous a prouvé qu'il était capable de déjouer les pronostics. Ça me semblerait très improbable. Et il y a un scénario plus heureux dans lequel Biden gagne la présidence des États-Unis. Kamala Harris lui succédera peut-être en cours de mandat, c'est sa vice-présidente. Et puis surtout, les démocrates pourraient devenir majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on pourrait se dire, c'est les États-Unis, on s'en fout. Mais pas du tout. Parce que les Américains, malheureusement, sont encore aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou qu'ils le contestent, la première économie mondiale, la première puissance militaire et diplomatique. Et c'est vrai que quand ils sont dirigés par quelqu'un comme Trump, eh bien, ça les conduit à un isolationnisme, à une destruction du système international qui n'est pas bonne pour nous.
Bon, vous suivez Fergan.
Je suis la campagne
américaine
avec beaucoup de circonspection. Alors, je ne sais pas si effectivement Trump va gagner parce qu'on nous a déjà prouvé, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il peut déjouer tous les pronostics. Ce qui est sûr, c'est que cette élection, elle est quand même très inquiétante du point de vue de l'observateur extérieur parce que on avait été habitué à une Amérique finalement assez stable sur le plan politique et constitutionnel ces deux derniers siècles. Nous, Français, on peut difficilement donner des leçons de stabilité politique qui avons connu des tas de régimes, je ne sais pas combien de directoires, de restaurations, d'empires et autres. On a la face à nous une Amérique qu'on croyait stable, qu'on croyait inébranlable, et on voit à quel point aujourd'hui le débat est polarisé, à quel point le tribalisme en politique gangrène le débat public jusqu'à faire en sorte que les gens se traitent de moins en moins en adversaires politiques et de plus en plus en ennemis politiques. Ouais. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que cette campagne est un peu inquiétante. Quelle qu'en soit l'issue, je pense que rien n'est gagné, en tout cas pour la stabilité politique de ce pays-là. Et du coup, la stabilité du monde, puisque l'Amérique étant la première puissance politique, ses affaires intérieures ont toujours une portée internationale.
Avec chacun, hier soir, sur une chaîne différente qui était à la télévision.
Oui, bien sûr.
C'était quand même assez...
Alors qu'ils auraient dû être en débat, normalement.
Oui, ils auraient dû être en débat.
Mais le débat a été d'abord reporté, puis annulé. Il en reste un à la fin. Le premier premier avait été atroce. Hein. Ouais, enfin, je pense que dans ce qu'il avait regardé, il s'était insulté. Vous êtes le président le plus bête du monde. Des deux côtés. C'est là, pour le coup, les deux avaient été égalité. Donc, on espère que le dernier débat sera un peu plus digne.
Ouais, Régis,
alors,
un mot.
Je voudrais dire un petit mot, Valérie. Oui. Je ne dois pas habiter dans le même pays que Gaspard, parce que moi, j'ai entendu, je veux dire, exactement le contraire. C'est-à-dire, Biden va écraser Trump, etc. Trump est fou, machin, etc. Bon, moi, personnellement, c'est la peste et le choléra. Pour ce qui me concerne, je suis triste pour les États-Unis, où j'ai de la famille. Quand je vois ce pays extrêmement important, hein, qui est un leader mondial incontestable, être dans cet état et que les élections à ce point essentiel se disputent entre deux vieillards corrompus autant l'un que l'autre, dans une ambiance dont certains commencent vraiment à s'inquiéter et qui relèverait d'une certaine guerre civile. Ouais. Parce que la particularité des deux camps qui se haïssent avec des niveaux de haine extraordinaires, c'est qu'ils sont armés jusqu'aux dents des deux côtés. Moi, personnellement, et je pense que ce serait une catastrophe pour tout le monde, y compris pour nous, si l'Amérique basculer. Donc bon,
basculer. Vous voulez dire de quel côté, quel est
Ah ben non, basculer.
Elle a déjà basculé.
Vous savez, il y a déjà les il va y avoir 40% de vote par correspondance, donc on n'aura pas le résultat tout de suite, etc. Moi, je crains. Je dis bien, je crains. Hein, le bazar, et je crains des situations difficilement contrôlables.
On a des auditeurs qui nous disent, effectivement, si Biden est élu, c'est la guerre civile assurée. En tout cas, on sait que...
Ça dépend de l'ampleur du score. C'est-à-dire que si Biden gagne avec 10 points d'avance, Trump pourra faire ce qu'il veut. Je pense qu'il sera obligé de rentrer chez lui. Si c'est serré, c'est sûr que ça sera plus compliqué.
Ça va être plus compliqué. La joie.
Je partage les propos qui viennent d'être dits. C'est-à-dire que moi, je suis également triste pour les États-Unis quand on voit, en effet, le niveau des débats au regard des enjeux et puis de la situation. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 200 000 morts aux États-Unis, des millions d'emplois qui ont été supprimés Américains qui, contrairement à la France, et on est très chanceux, ne bénéficient pas tous d'une protection sociale.
C'est vrai. Allez, le coup de gueule de Fergan, Eric.
Alors oui, il est lié à l'actualité sanitaire. On aura sans doute l'occasion d'en parler tout à l'heure lors du débat. Mais moi, je m'étonne que nous sommes aujourd'hui plus promptes à réduire, alors pas à néant, mais en tout cas à affaiblir durablement nos libertés publiques, qu'à demander des comptes à ceux qui nous ont désarmés sur le plan sanitaire depuis des décennies. Que dit le gouvernement lorsqu'on lui rétorque qu'il faut augmenter les capacités hospitalières? Il nous dit, et c'est un argument qui s'entend, hein, il nous dit on ne peut pas former des médecins et des infirmiers en quelques mois et en quelques semaines. Ce qui est vrai. Encore que, lorsqu'on regarde ce qu'a fait l'Italie, on se rend compte qu'il y a des marges de manœuvre possibles, puisque l'Italie a en quelques mois embauché 6000 médecins et 14000 infirmiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont en fait accéléré la certification des étudiants qui auraient dû terminer leurs études l'année prochaine et qui finalement se sont retrouvés propulsés du jour au lendemain au rang de médecin qualifié. Donc il y a des marges de manœuvre possibles. Mais plus fondamentalement, je m'étonne que personne ne mette sur la table la question du numerus clausus, qui depuis des décennies a complètement atrophié l'offre médicale et hospitalière au nom de considérations en réalité protectionnistes et corporatistes, puisque c'est bien pour diminuer la concurrence entre médecins qu'on a artificiellement limité le nombre de médecins en exercice dans ce pays, et on le paie aujourd'hui. Cette pandémie, elle nous a surpris. Il y aura sans doute d'autres pandémies au cours de ce siècle. Peut-être est-il temps aujourd'hui de reconsidérer ce système et d'ouvrir davantage notre système de formation et d'arrêter avec ces entraves corporatistes qui limitent artificiellement le nombre de médecins en jouant avec la santé des Français.
Oui. En même temps, quand vous regardez aussi les déserts médicaux, il y a des déserts médicaux et puis il y a des régions qui sont extrêmement peuplées en médecins.
Hein, mais donc qu'il y ait des régions peuplées en médecins, ce n'est pas un problème. Le problème, ce sont les déserts médicaux qui sont encore une fois le fruit de restrictions malthusiennes artificielles. Ce sont des pénuries qu'on a fabriquées. Et ça, il faut en avoir conscience si on veut remédier à ce problème-là.
Régis de Castelnau, c'est un coup
de
gueule.
Alors très rapidement, c'est toujours, on est tous sur les conséquences de la pandémie. Sur un point précis, ce qui concerne les sanctions en cas d'inobservation des mesures qui ont été décidées. Là, on recommence à faire ce qu'on a fait au printemps, c'est-à-dire une vision coercitive et punitive. Hein, rappelons qu'il y a eu 9000 procès-verbaux en Grande-Bretagne pour violation du confinement. Il y en a eu plus d'un million en France. Et ça recommence. Hein, 135 euros pour la première, 1500 euros pour la deuxième et 6 mois de prison éventuels. Donc, et avec une particularité technique, hein, juridique, c'est que les textes sont très flous et ils peuvent difficilement être moins flous. Et ça donne un pouvoir arbitraire extrêmement important aux forces de l'ordre. Et ça, le juriste attaché aux libertés publiques que je suis, ça me gêne beaucoup.
Mais c'est-à-dire, hein, alors, allez au bout de votre.
Je suis pour qu'on respecte, mais pas pour qu'on punisse comme ça, qu'on infantilise. Et surtout, vous vous rendez compte, 1 500 euros, hein, je veux dire, pour. Et puis, surtout, ça donne l'interprétation des forces de police. Rappelez-vous le port du masque. Hein, il faut porter un masque, mais il y avait des dérogations, on ne savait pas quand, on ne savait pas où. Il y a eu des incidents absolument partout. Je déplore cette approche de.
S'il n'y a pas d'amende, s'il n'y a pas la peur du gendarme, et le gendarme ou la police auront déjà, on va en reparler, bien du mal à faire appliquer, je pense, les consignes, à ce moment-là, appeler à la responsabilisation, ça ne va peut-être pas suffire.
Oui, alors donc condamner des gens qui ont déjà perdu leur emploi à 1 500 euros d'amende, oui, c'est une bonne idée.
Ben oui, mais on peut tenir le même raisonnement avec la voiture, de dire, bah oui, j'ai plus mes points, j'ai plus de permis, donc je continue.
Enfin, je veux dire, c'est le système
de sanctions en général.
Enfin, moi, j'ai le chiffre 9 000 en Grande-Bretagne, hein, et 1 million en France. Il y a une vision arbitraire et punitive que je déplore. Après, qu'il faille des mesures sur le couvre-feu, je n'ai pas la compétence pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, hein, mais ce que je veux dire, c'est dans la façon de le faire appliquer, cette vision coercitive et punitive me gêne beaucoup.
Mais on a l'impression que la France, alors je vais vous laisser réagir, on a l'impression que la France est une sorte de, alors je vais employer le mot, hein, de dictature, puisque vous le dites parfois même à l'antenne, mais regardez ce qui se passe à l'étranger. Mmh. En Espagne, c'est 60 000 euros si vous faites une fête chez vous. Mmh. Ce sont de la Guardia Civile qui est masquée, quand je vous dis masquée, je les ai vus en Espagne avec leurs fusils d'assaut quand ils contrôlent. Enfin, je veux dire, on n'est pas les seuls à avoir des mesures coercitives.
Oui, mais attendez, les Espagnols, mais ce que vous dites, c'est évident. Moi, ce n'est pas un exemple, hein, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on
partout
fasse différemment. Je préférerais qu'on ait l'approche de la Grande-Bretagne, par exemple. On peut regarder chez eux aussi.
Qui sont le deuxième pays avec le plus grand nombre de morts.
Ouais. C'est de la corrélation, c'est pas de la causalité, ça.
Bah, corrélation, causalité, alors je ne sais pas, peut-être répondre à ce que vient de dire.
Non, mais on parlait de la Grande-Bretagne. J'ai un ami qui vit en Grande-Bretagne. Il m'arrive de lui demander des nouvelles et je peux vous dire que oui, il y a des mesures coercitives également. Et d'ailleurs, même pour les étrangers, puisque lui est un Français qui vit à Londres, il me disait que si des étrangers ne respectaient pas, comme les Anglais, ces mesures-là, ils étaient renvoyés en France. Ouais, hein. Ouais. Ça ne rigole pas. Donc, dire que en Angleterre, ils le sont moins, je pense que ce n'est pas le cas dans la réalité.
Alors, Fergan, puis après vous.
Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes loin d'être les seuls d'adopter des mesures coercitives, ce sont toutes les démocraties libérales occidentales, enfin dites libérales occidentales, qui vacillent et qui balayent leurs principes constitutionnels fondateurs d'un revers de main. Simplement, je ne suis pas sûr qu'il faille s'en féliciter. C'est-à-dire que pour moi, l'idée, le fait que d'autres pays fassent pire que nous n'est pas une excuse pour justifier la coercition ici. Moi, je regrette que nous soyons incapables de parier sur la responsabilité individuelle, que nous avons perdu de vue que la finalité première du pouvoir politique, c'est quand même la protection des libertés fondamentales. C'est le fondement de ce fameux contrat social dont on nous parle sans cesse. Or, aujourd'hui, on trouve tout à fait normal de mandater des policiers pour contrôler les déplacements de gens qui sont tout à fait pacifiques. Moi, je trouve ça quand même dérangeant parce que c'est sur le plan de la tradition politique et constitutionnelle occidentale, un véritable recul, une véritable défaite de notre tradition constitutionnelle.
Et moi aussi je suis très attaché au fondement du contrat social en France, mais j'ai pas du tout le sentiment de vivre dans un état policier. Je crois que par exemple, je prends un exemple très concret. Il y a une semaine, le gouvernement nous a dit que les bars allaient être fermés. Ils n'ont pas été fermés. Les gens ont continué à aller prendre des coups en terrasse, moi le premier, dans le respect des règles, règles barrières. Les gens vivent avec une jouissance de liberté unique en France par rapport à tous les autres pays. Moi, je suis allé en Italie, je suis allé en Espagne, je suis allé au Royaume-Uni. Ouais. Je peux vous dire que c'est beaucoup moins rigolo. Ouais. Et en France, on a été extrêmement cool depuis la sortie du confinement. Alors là, on a le sentiment que la vis est un peu tournée parce que visiblement c'est nécessaire, mais j'ai plutôt le sentiment d'une grande liberté par rapport à ce qui se passe dans les autres pays.
Oui. Moi, je rejoins Gaspard Ganzer, d'autant que vous parliez d'infantilisation des Français. Mais je vous rappelle que cet été, le gouvernement n'était pas derrière les Français en leur rappelant les mesures barrières. Bah, qu'est-ce que ça a donné ?
Non, les mesures barrières ont été rappelées.
On est tous attachés à la liberté individuelle.
Non, justement, on l'est plus.
Si on est tous attachés à la liberté individuelle. Mais à un moment, peut-être que les mesures coercitives permettent aussi de responsabiliser certains Français. Voilà, certains Français. Et cet été, je suis désolée, tout le monde le dit d'ailleurs, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement et on le paye aujourd'hui.
Mais encore aujourd'hui, hein, je peux me mettre très à l'aise. Quand on se balade dans Paris, les gens portent des masques.
Etc. Oui, les gens respectent.
C'est vrai que les gens continuent aussi de vivre parce qu'en fait, ils profitent de leur liberté individuelle et ils ont bien raison. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est dans un état répressif à l'heure actuelle.
On va en reparler justement sur l'acceptation par les Français de ces mesures. Vous pouvez réagir, 0826 300 300. On aura votre coup de cœur également, Najwa. Moi, j'avais un petit coup de gueule sur les termes de papy et mamie. Peut-être que Gaspard Ganzer nous dirait ce qu'il aurait dit à son président à l'époque. C'est-à-dire entendre Jean Castex et Olivier Véran dire papy et mamie. Je trouve ça, pour le coup, très infantilisant.
Oui, c'est bizarre.
On peut parler des grands-parents, on peut parler...
Non, mais surtout, au-delà du fait que j'aime pas tellement cette tonalité, mais surtout, je trouve que ça fait très comme, pour le coup. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y a eu une réflexion en plus et qu'ils se sont dit, bah tiens, on va les appeler comme ça. Ça fera sympa. Ouais. En fait, je pense pas. Ça fait juste décalé et c'est inhabituel dans la bouche d'un Premier ministre, d'un président de la République.
Oui, un mot, Régis.
Papy, mamie. Il aurait dû dire pépé. Ça témoigne d'une époque. C'est bizarre. C'est la langue qui évolue. Mais moi, je ne supporte pas d'entendre partout son papa, sa maman, tout le temps.
C'est vrai.
On disait son père et sa mère. Ouais. Dans la vie privée, j'appelais mon père papa et j'appelais ma mère maman.
Oui.
Hein, mais je ne parle pas à des tiers. Je ne parle pas de ma maman. Je parle de ma mère qui est décédée aujourd'hui. Papy, mamie. Puis demain, ce sera tonton, tata aussi. Faudra faire attention et puis son pépé, sa mémé.
Tati. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec le coup de cœur de Najwa. On va parler donc du couvre-feu, de ses conséquences. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
On est avec vous jusqu'à midi sur Sud Radio. On va reparler donc de ce couvre-feu, des conséquences et puis des perquisitions dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Najwa, on ne vous a pas entendu, ça a évidemment un rapport avec le Covid.
Là, ce sera un coup de cœur pour la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Je rappelle que le couvre-feu est un coup dur pour les commerçants, les cafetiers, mais aussi pour la culture et le secteur de l'événementiel. Donc, il y a des pertes d'emplois, de bénéfices qui sont colossaux. Et c'est aussi un coup dur pour les Français, parce que les Français... et on en fait partie, ont besoin de s'oxygéner l'esprit, de penser à autre chose, de changer du quotidien qui est quand même particulièrement anxiogène. Et la culture, joue ce rôle. Mmh. Ça permet de prendre de la hauteur, de respirer, un peu de lumière dans ce côté sombre des choses. Et c'est pour cette raison que j'ai soutenu la démarche de la ministre Roselyne Bachelot qui souhaitait un assouplissement du couvre-feu pour la culture et donc pour les spectacles, les cinémas. Et elle souhaitait, parce que je parle au passé,
parce que finalement Bruno Le Maire a répondu qu'il était contre toute exemption, ce qui peut s'entendre, parce que vous auriez les restaurateurs qui diraient, moi j'ai eu des restaurateurs qui me disaient, moi je voudrais une exemption pour mes salariés qui habitent parfois à trois quarts d'heure, une heure du restaurant, donc qu'ils puissent rentrer chez eux à la fin du service.
C'est vrai que ça se comprend, après on ouvre la boîte de Pandore, mais c'est...
Parce que là l'idée c'était de permettre aux gens de quitter,
le cinéma ou le théâtre, avec la preuve qu'il quittait bien à 21h puisque le ticket faisant foi. Mais bon, en tous les cas, ça n'est pas passé.
Mais vous comprenez, ça, on ne peut pas faire d'exemption, d'exception. Si on en fait une pour les spectateurs de cinéma, pourquoi pas les employés des restaurants
Vous me dites, vous comprenez, mais en fait, moi, ce qui m'étonne avec cette décision de couvre-feu, c'est qu'il n'y a pas eu de calcul coût-bénéfice. C'est-à-dire qu'on nous impose cette solution comme étant une évidence, sans aucune étude d'impact. Vous savez, je lisais un article dans un journal, je ne connais plus le nom, mais... qui avait cette formule assez intéressante. Si le couvre-feu et le confinement étaient des médicaments en phase de test, est-ce qu'on aurait vraiment mis ces médicaments sur le marché ? Un médicament, quand on veut le développer et le mettre sur le marché, on fait un rapport, on fait une espèce de calcul coût-bénéfice, et s'il y a des effets pervers qui sont trop importants, on renonce à mettre ce médicament sur le marché. Moi, j'aurais aimé qu'on traite ces mesures coercitives comme les médicaments, qu'on fasse une évaluation coût-bénéfice, qu'on se demande si le bien est vraiment le bien procuré par ces mesures est vraiment supérieur ou inférieur au mal procuré. Et je crois qu'on est victime depuis le début de cette pandémie d'une opposition complètement stupide entre l'économie et la santé. C'est l'opposition qu'on entend depuis le début. Moi, pour ma part, je suis désolé, je ne connais pas une nation dont la santé ne soit pas conditionnée par sa prospérité, sa richesse. C'est-à-dire que s'il y a une espérance de vie de 20 ans inférieure en Afrique subsaharienne qu'en Europe, c'est parce que les Africains sont plus pauvres. Et donc, en France, on sait aussi que les 5% les plus riches vivent 13 ans de plus en moyenne que les 5% les plus pauvres, parce que tout simplement, la faculté de travailler, de subvenir à ses besoins, conditionne aussi un certain nombre de services qui ont trait à la santé. Donc, moi, je ne suis pas certain que le calcul coût-bénéfice soit vraiment en faveur de ces mesures. Le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune évaluation, qu'on a tous obéi le doigt à la couture, voilà, et que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de précautionnisme peut-être quant à cette application du principe de précaution.
Oui, enfin, sauf que c'est une épidémie nouvelle dont on ne sait pas grand-chose, un virus dont on ne prévoit pas vraiment comment il évolue, donc comment faire une modélisation.
Mais vous êtes tout à fait, vous avez tout à fait raison, là-dessus. Mais on a constitutionnalisé depuis quelques années l'idée de principe de précaution, l'idée que dans le doute, on s'abstienne de prendre des mesures qui pourraient être encore plus dommageables que le mal que l'on veut combattre. Je m'étonne de cette application à géométrie variable de ce principe de précaution qui doit aussi s'appliquer aux décisions politiques, me semble-t-il.
Régis de Castelnau.
Je pense que c'est la notion de bilan, du bilan coût-avantage. Vous avez raison, Valérie, on ne sait pas, on est dans beaucoup d'incertitudes. Je constate simplement, j'ai vu passer les communiqués de l'OMS qui dit que le confinement n'était pas la bonne solution. Ouais. Hein, pas la bonne solution pour arrêter la progression du virus, hein, et ensuite avait des conséquences sur la santé publique qui étaient trop importantes, sans parler de l'économie. Bon, moi, je veux être très, très prudent sur ces mesures qui sont prises. J'ai l'impression, hein, je dis bien, que les statisticiens ont beaucoup travaillé et que la prolifération du virus implique d'ici 3 semaines, 4 semaines, une possible saturation des services médicaux. C'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que les mesures qui sont prises en plus dans un cadre juridiquement arbitraire. Hein, c'est peut-être la solution pour être efficace, mais je suis désolé, la Constitution française n'est plus respectée. Hein, l'état d'exception n'existe pas dans la Constitution et on navigue à vue de cette façon-là. Bon, ok, on le fait parce que peut-être que la fin justifie les moyens, j'aime pas trop quand même. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on prend toute une série de mesures dont on ne connaît pas l'impact sur le virus.
Mais oui.
Hein. Bon, j'ai entendu plein de choses sur le couvre-feu, hein, mais qui auront nécessairement des conséquences dommageables sur la société dont vous parliez concernant la culture. Hein. C'est vrai que Emmanuel Macron, avec un petit sourire, dit il fait pas bon avoir 20 ans en 2020. Bah oui, effectivement, hein, c'est dur. Et tout ça laissera probablement des traces profondes. Bon, enfin, on traverse une période, hein, il faut bien la traverser, qui est particulièrement pénible.
Oui, Gaspard Ganzer.
Non, mais je
pense... Vous avez connu l'exercice du pouvoir.
Oui, il n'y a pas de plan caché, à mon avis, du gouvernement ou du président, qui sont de bonne foi. Alors évidemment, on peut regretter le fait que tout ça ne soit pas parfaitement maîtrisé, qu'il y ait des impressions de zigzag, que toutes les décisions ne reposent pas sur des études d'impact. Il n'en reste pas moins que l'épidémie est en réalité incontrôlable, contrairement à ce qu'a dit le président de la République, et qu'on doit s'adapter quasiment au jour le jour. Mais ils ne le font pas dans une optique de... Il n'y a pas de complot. Hein.
Ils ont peur. Ils ont peur de l'opinion.
Oui, ils essaient. Non, mais puis même, ils ont peur d'être responsables. Enfin, moi, je me mets à leur place, modestement, sans m'élever. Ils se disent... Mais même au-delà de ça, le président de la République et son gouvernement, ils se disent, bon, on n'a pas envie d'avoir 200 000 morts sur la conscience. C'est aussi simple que ça.
Mais là où le raisonnement est un peu vicié, c'est-à-dire, pardon, excusez-moi...
Non, mais c'est humain. Les gens ne sont pas des machines.
C'est humain, mais à se concentrer sur les risques de la liberté, on oublie aussi les risques risque de la suspension de la liberté. Je lisais la dernière fois un rapport de l'ONU qui disait que 490 millions de gens pourraient retomber dans ce qu'ils appellent, eux, une pauvreté multidimensionnelle à cause des restrictions que l'on oppose à l'économie internationale. Ces 490 millions de gens qui retombent dans la pauvreté, combien d'années de vie vont-ils perdre du fait qu'ils soient retombés dans la pauvreté.
Je suis d'accord avec
donc,
vous. Non, mais
arrêtons d'opposer la vie à l'économie.
Non, mais c'est pas du tout ce que j'ai fait.
Qui est stérile. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile dans la mesure où l'arbitrage médiatique n'est pas évident pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'il est confronté d'un côté aux morts immédiates d'une pandémie. Et de l'autre côté, aux morts diffus dans l'espace et dans le temps de la pauvreté. Et donc, les morts immédiats triomphent des morts diffus dans l'espace et dans le temps. Mais il n'est pas dit que ces morts diffus dans l'espace et dans le temps ne soient pas plus nombreux. C'est là où moi j'appelle à l'application
d'un principe de précaution. Mais je suis d'accord avec vous, mais à l'inverse, si le gouvernement commençait à dire à un moment donné, écoutez, on va effectivement vraiment vivre avec le virus, et oui, effectivement, on sera à 100 000 morts à la fin du quinquennat, mais je veux dire que les gens les prendraient littéralement pour des fous.
Ouais. Je suis d'accord. Je rappelle les sondages,
oui, 73% des Français qui sont
des Français qui sont favorables au confinement, qu'il soit local ou
européen. Ce qui va arriver.
Alors Régis de
Castelnau. Il n'y a pas de complot. Non, il n'y a pas de complot. Je ne pense pas qu'il y ait un complot, mais il y a des aubaines, il y a des opportunités, parce que comme par hasard, l'état d'exception a été prolongé jusqu'au 1er avril, hein, et il y a quelques mois, Monsieur Macron s'était approché du président de l'Association des régions de France, Monsieur Muselier, pour lui dire, mais comme vous allez avoir de l'argent et que vous allez pouvoir faire le plan de relance, on va reporter les élections régionales et départementales après la présidentielle. Emmanuel Macron craint cette élection pour des raisons politiques que je peux comprendre. Beaucoup de ses adversaires potentiels à droite sont présidents de région.
Non, je pense pas qu'il a craint, il a compris qu'il avait perdu.
Attendez, le congrès de l'ARF, dans toute la presse ce matin, j'ai vu, on va vers un report, etc., etc. Là, il y a une aubaine politique, je pense qu'il y a des calculs.
Mais vous vous souvenez aussi des élections municipales, comment elles se sont passées?
Oui.
Et puis, elles pouvaient se passer autrement.
On a reproché au gouvernement de ne pas avoir
anticipé.
Et de ne pas avoir reporté l'élection, surtout.
Et exactement, et reporté
mais non, attendez.
Non, je suis désolé.
Le premier tour a été maintenu le 15.
Mais c'est ce qu'on
alors
leur...
que le confinement, attendez, le confinement, le confinement.
Mais on leur a reproché ce maintien.
Non, pas du tout.
C'est
pas
si. Le problème n'est pas là.
Le premier tour a été maintenu pour le 15 mars en sachant que le deuxième pouvait pas avoir lieu puisque le confinement commençait le 17. Moi, je suis désolé. Et ensuite, le deuxième tour a été fixé avec, on a bien vu les taux de, elles devaient être reportées ces élections. Elles ont été purement et simplement sabotées, hein. Et ce qui est en train de se passer.
On peut pas dire que ça est bénéficiaire.
Tout le monde trouve ça formidable. Ce qui est en train de se passer, on est à 6 mois de ces élections. On sait. Ce qui est en train de se passer, c'est que on va nous habituer. Ah ben non. L'illégitimité des élections communales sont très faibles, on le sait bien, et on va nous débarrasser des départementales et des régionales. Moi, je trouve ça inquiétant, c'est tout.
Est-ce que vous pensez que les Français, ça fait partie du débat que des questions qu'on voulait aborder, vont respecter dans leur majorité ce couvre-feu? Beaucoup de questions sur les banlieues, évidemment. On a vu qu'il n'y a pas assez de policiers, Gaspard Ganzer.
Non, mais je pense que dans l'ensemble, les gens respecteront les règles dans l'ensemble. Mais je crois que quand même l'acceptation sociale et politique a quand même diminué depuis le mois de mars, parce que certaines personnes ne font plus confiance au gouvernement, d'autres sont pris d'une forme de lassitude, voire de dépression par rapport à cette épidémie qui dure et qui n'en finit pas. Donc je pense que les petits arrangements vont être nombreux, et chez à peu près tout le monde. Ouais. Tout le monde va trouver son petit système, non pas pour enfreindre massivement la règle, mais les gens vont s'en accommoder gentiment. Est-ce qu'on pourra leur en vouloir? Non, tant que ça reste proportionné et adapté.
Oui, Fergan.
Oui, je pense que, étant donné le consensus social quand même qui est aujourd'hui... qui concerne aujourd'hui ces mesures de couvre-feu, je pense qu'il sera globalement respecté dans les quartiers sensibles, je ne sais pas. Maintenant, c'est vrai que moi, je suis plutôt de ceux qui s'étonnent, au contraire de cette docilité. Je m'étonne qu'il n'y ait pas eu de recours contre les tribunaux administratifs, parce qu'encore une fois, je ne suis pas convaincu de l'opportunité de ces mesures-là. L'autre étonnement aussi que j'ai, c'est la facilité à déployer des policiers, des gendarmes pour contrôler les déplacements de gens pacifiques quand on nous dit qu'il manque tout le temps de moyens policiers pour lutter contre la vraie criminalité. Ça m'a étonné de me dire qu'ils ont sorti...
Ils sortiront
mais voyez, c'est aussi, vous voyez, ça, les criminels vont-ils moins sortir? Je sais pas. Un criminel qui, par essence...
On a vu que dans certaines banlieues où les trafics de drogue étaient importants, je peux vous dire que le fait de réduire les sorties ou le confinement a bien diminué les trafics de drogue.
Je viens vous croire.
Ce qui a créé d'ailleurs des tensions dans certains quartiers.
Oui. Régis ?
J'entends beaucoup, les Français acceptent, ils sont des moutons, je déteste ça parce que je suis finalement toujours un petit peu fier, parce que le confinement, les gens l'ont respecté. Là, les mesures, ils les acceptent, c'est pénible, ils râlent, mais quand on parle de l'indiscipline de ce peuple, moi, je pense un peu le contraire. Quand on lui demande d'y aller, il y va. Et donc là-dessus, mais c'est clair que le déficit de confiance, le déficit de légitimité de ce gouvernement pose toute une série de problèmes. Et c'est pour ça que ça rejoint mon coup de gueule. Je pense qu'il n'y a pas besoin de passer son temps à manier le gros bâton.
Oui, mais sans gros bâton, vous pensez que les Français vont respecter ?
Oui.
Oui.
Dans l'ensemble, ils respecteront. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord. Après, on verra où seront les. On verra où seront. Il y aura des petits pas de côté.
Ouais. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause et on va revenir sur cette perquisition hier, donc qui a eu lieu chez plusieurs ministres. On va en reparler avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, perquisition en série donc dans le cadre de l'enquête sur la gestion de la crise sanitaire. Beaucoup de réactions, des perquisitions qui ont été menées hier au domicile ou dans les bureaux d'Édouard Philippe, d'Agnès Buzyn, d'Olivier Véran. C'est dans le cadre d'une information judiciaire qui a été ouverte par la Cour de justice de la République. C'est vrai que beaucoup s'interrogent sur le timing au lendemain des annonces du président de la République. Également, des perquisitions ont été menées chez Sibeth Ndiaye, l'ex-porte-parole du gouvernement. Je vous propose d'écouter ce que disait Elisabeth Borne à propos de cette perquisition qu'elle ne souhaitait pas commenter.
On a besoin évidemment d'accéder aux ordinateurs qui permettent de tracer les décisions qui sont prises. Je pense que ça tombe très mal de venir saisir des ordinateurs, de menacer de mettre sous scellé des ordinateurs dont on a besoin pour gérer cette crise. Ensuite, la justice, elle est indépendante dans ce pays, donc je ne vais pas commenter davantage.
Étonnant parce que évidemment la justice fait son travail. Alors souvent dans ce pays on dit que les politiques sont protégés, qu'il y a une impunité, une immunité, etc. Bah là on voit exactement l'inverse. Il y a eu des perquisitions chez les anciens ministres, y compris Premier ministre. C'est pas très fréquent dans l'histoire de notre République. C'est arrivé très très peu. Et là il y a eu aucun privilège. Les flics ont débarqué chez ces gens, ont pris le matériel informatique et il y a rien eu à dire. Et je trouve ça très bien et très sain.
Le timing vous pose pas d'interrogation, de question?
Pas du tout. Bah, au contraire, je pense que c'est pas un timing qui arrange le gouvernement. Donc c'est bien la preuve que la justice est indépendante dans ce pays, même si beaucoup en doutent.
Alors, je vais être redondante, mais je vais dire la même chose. Ouais. On peut que être soulagé du fait qu'il y a bien une séparation des pouvoirs dans notre pays et qu'on est bien dans un état de droit et qu'il y a des personnes qui ne sont pas protégées et les ministres en font partie. Et puis, ça fait ces perquisitions font suite, quand même, je rappelle, à des dépôts de plaintes,
Il y a eu des plaintes,
des victimes,
90 plaintes contre des ministres, donc qui ont été adressées à cette Cour de justice de la République, qui est la seule instance qui est habilitée à juger les membres du gouvernement.
Et donc la justice fait son travail.
Oui. Qu'est-ce qu'il en dit, l'avocat Régis de Castelnau? On a entendu l'avocat.
Bah, il va dire des horreurs. Il va dire des horreurs.
Hein? Allez-y, Régis.
Bon. Alors, après ce que je viens d'entendre d'ailleurs, alors trois observations initiales. Premièrement, la perquisition est un acte extrêmement violent. Quand on arrive chez vous à 6h du matin, toc, 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 et qu'on vient, qu'on fouille partout, qu'on saisit vos téléphones, vous n'avez plus le droit de parler, de téléphoner à qui que ce soit, c'est une violence très forte. Deuxièmement, techniquement, et là c'est le praticien relativement âgé aujourd'hui qui vous parle, ces perquisitions étaient par rapport à la gestion de ces dossiers de santé publique inutiles. J'ai participé au sang contaminé et à leur mode de croissance. C'est donc une initiative qui était absolument pas nécessaire d'être prise maintenant. Troisième observation, et puis après je donnerai mon avis, troisième observation, ce raid, parce que il y a eu 5 ou 6 perquisitions en même temps, comme vous disiez beaucoup de monde, n'a pas pu être décidé sans que les plus hautes autorités judiciaires de ce pays en aient été informées et les décidées.
Hein, c'est à savoir le garde des
Sceaux. Ça me fait penser à Madame Belloubet disant oh, j'ai appris la perquisition chez Jean-Luc Mélenchon par la presse. C'est pas sérieux. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire, le sens que ça a? Moi, je pense que justice indépendante, oui, c'est très joli. Il faudrait qu'elle soit impartiale. Je pense que c'est un message envoyé à Emmanuel Macron, parce que faut quand même rappeler le contexte. C'est un affrontement très dur entre la chancellerie avec Monsieur Dupond-Moretti, choisi par Emmanuel Macron, et la magistrature. On a des pétitions, on a des assemblées générales, on a des communiqués de la présidence de la Cour de cassation, et donc il y a un enjeu fort, et la magistrature, assez réunie dans son corps pour ça, souhaite le départ de Dupond-Moretti. Si je devais utiliser une formule, et puis je m'arrête, c'est un message envoyé à Emmanuel Macron pour une perquisition le lendemain du jour où il annonce et il fait sa grande émission, ce qu'on savait, sa nécessité, si la date était fixée avant, sa nécessité au moins le report, c'est « cher Monsieur Macron, quitte à faire roi hein, ». On a liquidé le principal concurrent qui s'appelait Fillon, depuis il n'a pas à se plaindre de la façon dont la justice s'est comportée dans différents aspects, et en particulier dans la répression de masse des Gilets jaunes. Hein, et là, aujourd'hui, il considère qu'on leur a mis un garde-chiourme avec Éric Dupond-Moretti, et ils envoient un message fort en rappelant « c'est nous qui tenons le manche
hein, ». C'est qui les juges de la Cour européenne, de la Cour de justice de la République ?
Alors, si vous voulez, la juridiction est une juridiction destinée à préserver la séparation des pouvoirs, donc les juges qui jugent sont majoritairement des parlementaires. Hein. Il y a des magistrats professionnels, mais tout le travail d'information judiciaire, hein, tout le travail d'autorité de poursuite est fait par les magistrats.
Donc quoi, hein, au final, ça ne sert à rien, c'est ce que vous êtes en train de dire?
Non, c'est pas nécessaire et c'est pas utile. Je pense que ça sert, c'est un message politique. C'est un message politique.
Mais vous auriez préféré quoi?
Vous
auriez préféré quoi? L'inverse, c'est-à-dire que la justice soit au bottes de l'exécutif et ne fasse pas son travail?
C'est là où on ne comprend pas très bien. Attendez.
Il y a une hypocrisie, mais extraordinaire.
Mais je ne comprends pas. Peut-être que je ne suis pas assez intelligent, mais j'essaie de comprendre.
Vous comprenez très bien que, effectivement, c'est une initiative qui est techniquement, je le dis, inutile, et c'est une initiative qui a été prise dans le cadre d'un conflit politique entre la magistrature et le pouvoir exécutif, puisque la magistrature conteste la nomination par le pouvoir exécutif d'un garde des Sceaux.
Non, moi je crois qu'il n'y a pas de complot, ils font juste leur travail.
Non, il n'y a pas de complot,
quand il y a une enquête, une information judiciaire.
Il y a eu 9 plaintes qui ont été jugées recevables sur les 90 qui ont été déposées, des plaintes de médecins et d'associations. Donc c'est le cours normal de la justice qui est une enquête.
Oui, non, une information judiciaire, d'accord. Et elle se déroule, si vous voulez, elle se déroule de certaines façons. Et il y a effectivement, moi, l'analyse que j'en fais, je vais dire pourquoi j'arrive à cette conclusion de façon très nette. Vous m'excuserez, Valérie, de ce que je vais dire maintenant. Je viens de terminer un travail qui sera publié, 500 pages, qui sera publié autour du 9 ou 10 novembre sur cette situation de dévoiement politique de la magistrature. Donc, je joue carte sur table. Je considère que ce qui s'est passé hier se rattache directement dans le choix du moment, dans le choix des techniques, à ce qu'il agite aujourd'hui le monde judiciaire, c'est-à-dire l'affrontement dur avec les organisations syndicales qui refusent de parler aux ministres, entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Oui, ça va dans le sens de certains qui s'interrogent sur ce timing, c'est-à-dire vraiment au lendemain de l'intervention du président de la République, on y voit quand même un signe. Fergan.
Alors moi, je ne suis pas juriste et donc je ne suis pas du tout compétent pour évaluer le bien fondé de ces procédures. Maintenant, c'est vrai que le citoyen que je suis s'étonne, mais peut-être est-ce là une remarque non pertinente, hein, je laisse mes contradicteurs le soin d'apporter des précisions, mais je m'étonne quand même de cette judiciarisation du contrôle politique, c'est-à-dire que ce rôle qui consiste à interpeller tel ou tel ministre pour la gestion du Covid, je pensais que c'était celui du Parlement, moi j'aurais aimé qu'il y ait davantage de commissions ou des électeurs qui seront amenés à trancher. Cette gestion politique du Covid appelle à des sanctions politiques dans la mesure où il y a eu des défaillances.
Sauf qu'il y a des plaintes.
Et je me demande si cette judiciarisation du contrôle de l'action du gouvernement me semble un peu paradoxal dans la mesure où il me semble que c'est la sanction politique qui doit primer, non pas la sanction judiciaire dans ce genre de cas de figure. Oui, mais c'est un petit peu la question si j'ai pas la réponse définitive.
Non, mais c'est une bonne question. Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. La sanction politique, elle arrivera peut-être en 2022. Mais en attendant, il y a quand même des plaintes qui ont été déposées. Je pense que c'est bien et sain que la justice fasse son travail. On reproche tout le temps à la justice, on a reproché pendant des décennies à la justice d'être soumise au pouvoir politique. Ne nous plaignons pas maintenant à l'inverse, c'est pas du tout ce que vous avez fait, que celle-ci soit vraiment indépendante. Ça sera notre débat est constructif.
Non, mais elle est
moi, je préfère trop d'indépendance à pas assez d'indépendance.
Aussi, hein. Mais non, mais attendez, Gaspard, le mantra indépendance ne veut rien dire. L'indépendance ne doit être que l'outil. L'indépendance ne doit être que l'outil de l'impartialité. Ce terme, je ne l'entends jamais. Alors, je voudrais répondre à Fergan. Je suis pas d'accord avec lui. Le code pénal.
Il a décidé de ne serait d'accord avec personne aujourd'hui.
Je n'ai mis aucune opinion. Mon lieu d'énonciation, c'est ma compétence professionnelle, c'est la seule que j'ai. C'est ma seule légitimité à dire ça. Non, ce que je veux dire, c'est que le contrôle politique, l'articulation du contrôle pénal et du contrôle politique, elle est tout à fait possible. Les textes le permettent. Il y a des infractions. Regardez ce qui est arrivé au maire. Il y a eu beaucoup d'affaires de ce type, etc. Dès lors que vous êtes que vous commettez des fautes qui sont prévues par le code pénal dans l'exercice de vos responsabilités, et moi je considère qu'il y en a eu, c'est pour ça que ces plaintes étaient tout à fait légitimes et qu'elles doivent être instruites, c'est la façon dont ça s'est passé maintenant. Si ça aboutit à terme dans 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ans, parce que toutes les affaires de santé publique sont très longues, il faut des expertises, il y a des confrontations, c'est un énorme travail. Eh bien, si ça aboutit à des condamnations des ministres aujourd'hui visés, ce sera normal. Je trouve ça tout à fait logique. Le contrôle politique, c'est une chose, c'est le Parlement, etc. Le contrôle pénal, c'est le juge. C'est vrai parce qu'il y a des infractions qui sont dans le code pénal, votés par le législatif et qui doivent s'appliquer à tout le monde.
Mais c'est heureux. J'aurais aimé que le juge s'approprie davantage la question de la légalité des mesures sanitaires prises pendant toute cette période. J'ai l'impression qu'on a un juge administratif et constitutionnel qui l'a mis un peu en veilleuse. Et c'est vrai que... c'est un euphémisme. Et quitte à ce qu'il y ait de l'activisme judiciaire, j'aurais aimé qu'il soit davantage porté sur la question du respect des libertés fondamentales et de la proportionnalité des mesures qui sont aujourd'hui prises pour lutter contre.
Une micro-anecdote là-dessus qui est amusante. C'est passé un peu inaperçu, mais vous savez certainement que les salles de sport avaient été fermées. Oui, et en fait, que le gouvernement, dans la plupart des départements, a été débouté et qu'en fait, la justice administrative a annulé la fermeture des salles de sport qui ont donc rouvertes dans la plupart des départements quelques jours. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Voilà, comme parfois, il y a des exceptions qui vont dans le bon sens du point de vue des libertés fondamentales.
Politique, et vous avez bien raison. Je rappelle simplement qu'il y a eu dernièrement une commission parlementaire qui a auditionné. Je me souviens d'ailleurs de l'audition de l'ancienne porte-parole Sibeth Ndiaye. Donc le Parlement fait son travail également, parallèlement à cette plainte qui est déposée par des personnes de la société civile,
des citoyens. Combien de temps pour aboutir
La justice, ça prend des années.
Ça prend des années, c'est ça la question.
Des années, la sanction politique arrivera avant si elle doit arriver,
absolument. Et c'est sur les actes qui seront jugés. Régis, vous étiez en train de dire quelque chose.
Je suis de nouveau d'accord avec Fergan. Vous voyez, je suis pas en désaccord.
Vous êtes taquiné, ça vous a pas plu.
Sur le contrôle, c'est vrai qu'il y a des juridictions administratives, tribunaux administratifs, parfois cours d'appel, qui ont pris des décisions de restauration des libertés publiques. Le Conseil d'État a été je pèse mes mots en dessous de tout. Il a tout validé. Hein. Donc voilà. C'est... Ouais. Bon, mais attention, hein, si vous voulez, la période était particulière et malheureusement, le Conseil d'État a considéré que la fin justifiait les moyens, hein, et que compte tenu de cette crise pandémique, il fallait que le pouvoir puisse effectivement, d'une certaine façon, et c'est le terme que j'utilise, céder à l'arbitraire.
Ouais. Attention quand même à l'argument de la période qui, moi, me gêne beaucoup. Et là, je reprendrai les mots d'un François Sureau que j'aime beaucoup. Il dit, vous savez, pour ceux qui n'aiment pas la liberté, les temps ne sont jamais commodes. Les temps sont toujours difficiles. Il rappelle en effet que ceux qui ont érigé la liberté au rang de principe l'ont fait dans un contexte qui était loin d'être paisible à la fois sur le plan des violences physiques, sur le plan sanitaire. Il y a encore un siècle, l'espérance de vie dans le monde était de 35 ans. Aujourd'hui, les maladies infectieuses, en dépit de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, se sont quand même effondré sous les progrès de la médecine, des technologies, de la science. Moi, je m'étonne quand même que nous vivons malgré tout l'une des époques la plus prospère sur le plan économique, sanitaire ou autre, et que nous soyons à abdiquer de manière assez rapide des libertés fondamentales instaurées par nos aïeux, nos ancêtres, qui, eux, vivaient des temps beaucoup plus difficiles. Donc, moi, je m'interroge quand même sur la validité de cet argument lié aux circonstances.
Merci à tous les quatre. On se retrouve lundi, et dans un instant, c'est André Bercoff qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.